France Inter, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et Claude Askolovitch, bonjour Claude.
Bonjour.
On parle de pintade ce matin.
La pintade fermière de la famille Tauzin de Saint-Sever, que Michel Guérard, chef triplement étoilé, a servi dimanche soir au Grand du G7. Elle avait notre pintade les ailes farcies de fromage blanc, cuites aux herbes, foie gras, accompagnées d'un gratin sur braise avec une mousse de sauce verte. Elle fut précédée d'une soupe zéphyr de truffes noires et blanches, flottant dans un potage à base de blanc de poireaux et de pommes de terre. Et nous pouvons envier, mes amis, les agapes des grands de ce monde que Sud-Ouest, édition basque, me décrit pieusement, copieusement, et rend donc une vérité charnelle à ce G7 Biarro qui fut, me dit la presse, un bon moment de France. France dont le président Macron parle à l'oreille de Donald Trump dans La Croix et l'enlace carrément dans Libération. Macron est prêt à organiser une rencontre entre Trump et le président iranien. C'est, qu'en direz-vous, la une du New York Times. Mais notre président n'a pas fait que cela. Il a aussi, me dit Sud-Ouest, choisi lui-même la pintade pour égaler ses hôtes et il a trouvé le repas formidable. Et voilà donc ce qu'un sommet nous fait. Sud-Ouest, comme les confrères, analyse le culot, je cite, et la volonté du chef de l'État, mais mieux que les confrères, nous invite à être spectateurs et peut-être groupies des grands de ce monde et de leurs compagnes. Voilà Mesdames Trump et Macron avec de jeunes surfeurs sur une plage. Voilà Madame Abe, épouse du Premier ministre japonais, qui se fait ouvrir un musée et qui trouve que Biarritz et le Japon ont beaucoup en commun, la pêche à la baleine notamment. Et puis voilà donc ces repas qui nous disent la France, conclut le chef Michel Guérard, puisque la cuisine est associée à notre histoire depuis Carême, le cuisinier de Talleyrand. Talleyrand, pour mémoire, maître diplomate qui, en 1815, d'une France vaincue, fit un acteur du monde quand une sorte de G7 dansait à Vienne en congrès. La presse, heureusement, est son propre antidote et les journaux tempèrent l'extase. On lit déjà, vous en parliez, sur les sites que le Brésil a refusé l'aide du G7 pour combattre le feu de la forêt amazonienne. On lit dans l'Humanité que nous, Français, ne sommes pas impeccables pour la petite part d'Amazonie que nous possédons en Guyane où l'on cherche de l'or. On lit dans le Figaro la carte mondiale des forêts incendiées, l'Afrique est maculée de rouge comme l'Indonésie et en Sibérie, des millions d'hectares de forêts boréales ont été ravagés depuis juin. On lit enfin, allez-y. Sur le site du Monde, un entretien passionnant avec un anthropologue, Philippe Descola, spécialiste de l'Amazonie équatorienne. Il explique Descola le sort des habitants de la forêt, paysans et indiens spoliés avant même les incendies. Il décrit l'illusion des citadins brésiliens sur cette forêt dont il croit qu'elle pourra toujours se régénérer. Il pointe notre hypocrisie des Européens dont les vaches sont nourries du soja d'Amazonie et il plaide enfin pour que nous renoncions tous à nos idées simples sur les souverainetés des États. Il faudrait que des territoires et les habitants qui les portent, un fleuve brésilien, mais aussi la Loire par exemple, deviennent des personnalités juridiques dotées de droits. Lisez ce savant utopiste, moins glamour, mais plus nourrissant qu'une pintade, fut-elle celle des dieux.
On parle aussi de forêts françaises dans la
qui
presse
sont,
ce matin.
Léa, dans Libération, un objet de désir. Car des hommes et des femmes enlacent des arbres, les caressent, yeux bandés dans les bois et se laissent griser par les odeurs d'humus de décomposition. Cela s'appelle des bains de forêt. Cela requinque. Cela vient du Japon, mais cela se pratique en France dans la Drôme. Et c'est l'article le plus sensuel d'un numéro spécial de Libération consacré aux forêts. C'est le moment. Tant l'arbre aimé est fragile et à lire notre presse, on découvre, loin du feu spectaculaire de l'Amazonie que vous pouvez voir dans le Guardian notamment, tant de menaces près de chez nous. Dans le Morvan, un insecte, le scolyte, assassine les épicéas d'Union républicaine. Au bois de Frémontier, les frênes sont condamnées par la chalarose, champignon venu d'Asie, c'est dans le courrier Picard. Dans l'aube, me dit l'Esticlair, les arbres grillent de coups de soleil et à Nonard en Corrèze, un étudiant déprimé qui brûlait de vieux papiers lui rappelant de mauvais souvenirs, a fait brûler 5000 hectares de forêt. Et je ne sais, en lisant cette histoire dans le Populaire du Centre, si je dois d'abord pleurer les arbres ou plaindre un jeune homme en errance, doublement orphelin, trois fois interné en hôpital psychiatrique. La misère humaine vaut celle de la nature. Dans Slate, vous verrez des photos poignantes, des natures mortes de métal et de plastique et de déchets qui disent tout des vies balayées de violence. Elles sont exposées en rencontre d'Arles. Ce sont les intérieurs de voitures de vétérans américains, des anciens soldats qui ont livré l'intimité de leur véhicule au photographe Matthew Castel. Et c'est un cendrier qui déborde de mégots, un pistolet sur un siège près d'une assiette où repose un hamburger à moitié mâché et tout le reste se devine de ce que l'homme fait à l'homme. À Perpignan, c'est dans l'Indépendant, un jeune homme coiffeur accompagné d'une amie violoniste coupe les cheveux des gens perdus dans la rue. L'homme se console aussi.
Et pour finir, Claude, la mort d'une femme, c'est dans la dépêche.
Elle avait 26 ans et son compagnon l'a tuée dimanche soir à Toulouse de 20 coups de couteau avant de se lacérer lui-même. Mais lui vivra. On appelle ça un féminicide, une femme tuée parce que femme. Il y en a eu 96 en France cette année. Le meurtre est raconté par une voisine alertée par des cris qui a pris la jeune femme dans ses bras. Elle est morte dans ses bras. Pardonnez-moi pour ce que je vais dire. La victime était recouverte de sang. Elle me tendait le bras et me disait « Aidez-moi ! » J'ai été chercher une serviette de toilette, j'ai appliqué des points de compression. J'avais en même temps les pompiers avec moi au téléphone. J'ai attendu les secours et je lui disais de tenir bon. Elle se débattait et je n'avais personne autour de moi pour m'aider. À quelques pages, dans le même journal, La Dépêche, une autre jeune femme, elle merveilleuse de vie, elle s'appelle Coralie. Elle fabrique des peluches à partir des dessins que lui envoient des enfants, parfois malades et d'une imagination sans limite. Je demande ce matin simplement à aimer ces doudous biscornus.
Merci Claude Askolovitch pour cette revue de presse.